Chapitre 26.1 Le pesant et la racine du léger. Le pesant est la racine du léger. Le repos est le maître du mouvement. C'est pourquoi le sage n'abandonne jamais le pesant et le repos. Pour nombreuses que soient encore les belles choses à voir, il s'en éloigne et demeure dans la paix. Mais hélas, le seigneur des 10 000 chars estime le royaume léger pour lui-même. En l'estimant léger, il perd ses ministres. En se laissant entraîner, il perd la souveraineté. Vous connaissez la force de gravitation, ses effets et son origine. Pour l'homme actuel, elle s'avère déterminante étant donné les efforts considérables entrepris par les physiciens pour vaincre les effets de la pesanteur sur Terre. L'on sait que chaque corps céleste, donc également la Terre, possède une force d'attraction magnétique qui lui est propre. En conséquence, tout ce qui appartient à la Terre, tout ce qui est de sa nature, ne peut s'en détacher, est maintenu en place, donc a des possibilités de vie. L'action de la pesanteur a deux aspects, deux caractéristiques. La plus connue est l'attraction. L'autre, la répulsion. Par la force de répulsion, tout ce qui n'est pas de même essence que la Terre est repoussé et tenu à l'écart de son système, de crainte de sa nocivité pour elle et pour ses créatures. Cette double action de la pesanteur provient du 10e stratum terrestre, du cœur de la Terre, où se trouve le foyer central de l'esprit planétaire. Ce foyer détermine l'action de la pesanteur des 9 autres. Il s'ensuit que, outre la sphère matérielle avec ses 2 aspects, sont également concernées la sphère éthérique avec ses 4 aspects, ainsi que les sphères astrales et mentales avec leurs 2 aspects. L'influence de la pesanteur de l'esprit de la Terre pénètre donc tous les champs de manifestation de la personnalité. La personnalité possède, en plus du corps matériel, le corps éthérique, le corps astral et une petite partie du pouvoir mental, celui-ci n'étant pas encore entièrement développé en tant que corps de la personnalité. Les véhicules de la personnalité sont donc parfaitement soumis à l'action de la pesanteur des divers aspects de notre planète. Ce n'est donc pas seulement le corps matériel qui est attiré par l'esprit de la Terre, mais également le corps éthérique, le corps astral et les parties mentales de la personnalité. Cette situation explique pourquoi la rotation de la roue de la naissance et de la mort concerne uniquement les divers champs de manifestation de l'esprit de la Terre. Lorsqu'un cosmonaute, au cours d'un voyage spatial, échappe mécaniquement au pouvoir d'attraction directe de la sphère matérielle, il passe inéluctablement sous celui du domaine éthérique, puis du domaine astral, ensuite sous celui du domaine situé à la frontière de la sphère mentale. En dehors de cela, il n'y a qu'un néant absolu pour la personnalité, un vide, car il s'y exerce de toute autre force électromagnétique de gravité, exigeant des conditions astrales, mentales, éthériques et matérielles différentes. Cette frontière extrême est valable pour tout être mortel, son cœur étant entièrement relié au cœur de la Terre. À l'intérieur de cette limite, s'accomplissent les vies des personnalités se succédant dans le microcosme, lequel est relié à l'esprit de la planète. Car l'esprit de la planète est le centre de gravité du microcosme comme de la personnalité. Aucun microcosme ne peut se libérer facilement de la réclusion dans cette sphère électromagnétique. Mais les chapitres précédents vous ont appris qu'il existe une autre Terre, absolument invisible pour le mortel né de la nature, bien que philosophiquement démontrable. C'est la Terre sainte, le système planétaire du logos de la planète. L'enseignement universel fait la distinction entre l'esprit de la planète, qui a la charge de la vie matérielle grossière, et le logos de la planète, le seigneur de la planète originelle, inviolable et divine, domaine d'une splendeur éternelle indicible. Notre planète est issue de cette Terre sainte, de cette planète originelle, et elle est l'école d'apprentissage, le champ d'évolution où le microcosme doit entrer et d'où il s'élèvera, son instruction achevée, pour retourner dans sa patrie. Le logos planétaire est donc l'alpha, le commencement, mais aussi l'oméga, la fin. La grande mission qui sous-tend l'existence de chaque microcosme est donc, une fois le voyage accompli, de célébrer son retour à l'oméga et d'entendre la parole « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Écrit par ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai aux assoiffés de l'eau de la vie gratuitement. Voyez donc clairement à quel point les deux natures, dont témoigne la gnose, sont étroitement liées l'une à l'autre. Voyez comment les deux systèmes solaires, avec leurs planètes, donc avec notre Terre et la Terre sainte, s'élèvent l'un dans l'autre, bien que séparés. Voyez que le microcosme renferme en lui à la fois la patrie et la terre étrangère. Et comprenez pourquoi il vous est dit périodiquement à vous aussi « Le royaume des cieux est au-dedans de vous ». Le microcosme qui nous entoure est l'aspect absolu de la planète originelle, la Terre sainte. La personnalité appartient à la Terre terrestre. Le microcosme provient de la patrie. La personnalité est issue de la nature dialectique, et c'est à elle que s'adressent les mots « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». N'exagère-t-on pas ? Ne serait-il pas mieux de dire « Le royaume de Dieu nous est très proche » ? Non. Pour bien le comprendre, remarquez la relation qui existe entre l'esprit de la planète et le logos de la planète. On dit de l'esprit de la planète que sa réalité est un mystère. C'est une entité en développement sur une courbe ascendante. L'esprit de la planète est étroitement lié au logos de la planète et exécute tous ses ordres. Il est la projection du logos planétaire et son foyer, vous le savez, est situé au cœur de la Terre. Voyez-vous vous-même, il y a un microcosme et une personnalité. Le microcosme est de filiation divine, tandis que la personnalité est soumise à l'espace-temps. La sphère d'activité entière de la personnalité, sur le plan matériel aussi bien qu'éthérique, astral et mental, dépend du cœur de la personnalité. L'état électromagnétique entier, la qualité entière de la personnalité, donc ce qu'elle attire et repousse, ce à quoi elle est indifférente, est déterminé par l'état, la nature du cœur. Le cœur est donc, pour chacun, le grand foyer de vie. C'est pourquoi, disaient les frères de la Rose-Croix, « Ce que le cœur ne veut pas, dans la tête n'entre pas. » Vous comprenez maintenant pourquoi le texte du chapitre 26 du Tao Te Ching a trait au centre de gravité de la vie mortelle et au lieu où il se situe. Où se trouve-t-il pour vous ? Voilà ce qui importe dans la vie. C'est la question importante car le centre de gravité de la vie situé dans le cœur, foyer vital, dirige la marche entière de votre existence et détermine vos expériences. Le pesant est la racine du léger. Le repos est le maître du mouvement. C'est pourquoi le sage n'abandonne jamais le pesant et le repos. Nous pénétrons maintenant complètement ces paroles. La vie possède un centre de gravité, la source de toute son orientation. Son siège est dans le cœur. L'état momentané du cœur détermine le centre de gravité momentané de votre vie. Ce centre de gravité, cette pesanteur, est la base fondamentale de vos faits et gestes, de toute votre existence. Vous voyez quelqu'un faire ou non certaines choses, et vous vous étonnez. Comment cela se fait-il ? Ou vous vous exclamez tout joyeux, c'est magnifique. Pourquoi ? Tous ces actes, les positifs comme les négatifs, partent du centre de gravité de la vie située dans le cœur. C'est dans le cœur que se trouve donc la racine de la plante de la vie qui vous élève vers la lumière dans l'existence présente. C'est pourquoi le pesant est la racine du léger. Le centre de gravité de votre vie est la racine de tout ce qui, dans votre existence, monte dans la lumière de la réalité. Vous voyez sans doute que cette réalité est un mouvement, une activité incessante dont la nature et le fruit apparaissent au grand jour. Une force est nécessaire pour produire ce mouvement, cette croissance et ce résultat. Ainsi, il y a une racine, une force, un mouvement, et par conséquent, un résultat. Imaginez un instant que le centre de gravité de votre vie se situe dans la gnose, que là se situe la racine de votre existence. On pourrait alors appeler la force qui provoque le mouvement, le repos, la paix. La paix du cœur devient alors le maître du mouvement. Dans l'Épître aux Hébreux, on trouve un chapitre entier consacré à ce repos. Au 4e chapitre, il est dit à ceux qui sont continuellement invités à parcourir l'unique chemin vers ce repos. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Soyons donc pleins de zèle pour entrer dans ce repos. Quand le centre de gravité de l'homme se situe dans la gnose, il en émane une force, un mouvement. Quelque chose s'élève donc dans la lumière et le fruit en est visible. Ce résultat vivant est la paix intérieure, la quiétude, le merveilleux état d'être qui dépasse tout entendement. Ce résultat peut donc devenir à un moment donné le maître du mouvement. Il y a donc un mystère puissant, un mystère lié au cœur que vous devez résoudre. Un mystère s'énonçant comme suit. Comment déplacer le centre de gravité de votre vie, la racine de votre existence, des profondeurs de la terre jusqu'au cœur du Logos? Vous le savez maintenant, c'est un mystère du cœur. Si vous connaissez la Bible, vous savez que tout tourne autour de ce problème. Se dégager de la terre terrestre et entrer dans l'éternelle magnificence de l'autre planète, la terre sainte, que Jean vit un jour descendre du ciel et avec laquelle il s'unit totalement. Comment un élève peut-il réaliser cela? Comment résoudre ce mystère dans notre école spirituelle à l'aide de la méthode gnostique? Quand il a résolu ce mystère, le sage n'abandonne jamais le pesant et le repos, dit Lao Tzu, car le centre de gravité de sa vie est dans l'autre, se développe dans l'autre. Et quand il a goûté à cette merveille, il n'y renonce certes plus jamais pour les fruits matériels des ténèbres. Préparez-vous donc à résoudre ce prodigieux mystère.